Amour, échange et confinement, bonjour et bienvenue dans cette émission. Dernier jour de la semaine, 1er mai. Je vous propose aujourd'hui, sans interview, de retrouver les chroniques que vous retrouvez habituellement dans cette émission. Et pour commencer, Anne-Christine Barbecot qui est avec nous tous les vendredis avec un conseil aux parents de très jeunes enfants. Aujourd'hui, Anne-Christine, qui est, je le rappelle, accompagnante à la naissance, nous parle de quoi ? Bonjour Anne-Christine.
Bonjour.
Alors
aujourd'hui.
Pardon, aujourd'hui,
exceptionnellement,
oui. C'est exceptionnel, c'est le 1er mai.
C'est ça. Eh bien, exceptionnellement, je voulais ne pas m'adresser aux femmes enceintes ni aux jeunes mamans, mais à leurs partenaires.
Ah, c'est bien ça.
Ouais, hein.
Que dire à ses partenaires ?
Voilà, parce que l'arrivée d'un bébé, peut-être qu'en tant que partenaire, vous avez du mal à reconnaître votre femme et vous avez peut-être du mal à savoir comment réagir, à vous positionner. Et alors moi, je vous invite à ne pas vous positionner comme séparateur, parce qu'on a souvent tendance à avoir cette image-là du partenaire. C'est une vision assez freudienne, on va dire. Et c'est une vision qui commence dès la naissance. On dit que le papa doit couper le cordon pour séparer la mère et l'enfant. Je voulais juste rappeler que quand il coupe le cordon, en fait, il coupe juste le lien entre le bébé et le placenta, qui est un organe du bébé. Et en fait, symboliquement, il donne naissance à son enfant, à cette vie aérienne et terrienne. Mais il ne coupe pas le lien entre le bébé et la maman. Mais quand même, c'est très ancré dans notre culture, ça. Et en fait, ce positionnement de séparateur, eh ben, le risque, c'est que la maman, elle soit tiraillée en fait, entre son instinct et son bébé, et puis les désirs en fait, que vous pouvez lui faire ressentir. Et du coup, elle ne va pas se sentir soutenue et ça peut engendrer quelques difficultés, en particulier du ressentiment.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, ben, le positionnement, il est plutôt d'être protecteur en fait, de ce duo maman-bébé. Alors, bien sûr, il y a le soutien logistique, mais ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment soutenir la maman dans ses choix. Et parfois, on n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, ben, on peut peut-être se poser et en discuter et dire quel est son ressenti en tant que partenaire, voir comment on le vit, mais sans accuser ou sans critiquer. Lui montrer qu'on a confiance, en fait. Lui montrer qu'on a confiance en ses capacités de maman. Et ça va permettre de la soutenir dans sa maternité. Ça va permettre de nourrir le couple qui s'en portera bien mieux après. Et puis, ça donne un bon départ pour le bébé.
Alors, est-ce qu'on a peut-être des attentions spécifiques, des mots, je ne sais pas, des phrases ? Alors, il n'y a rien de tout fait, bien sûr, de tout fait, il n'y a pas de solution. Ou peut-être des mots à éviter, je ne sais pas, des choses, des attitudes. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits trucs s'il y en a ?
Oui, bah alors, je ne sais plus quel était le psychologue qui disait que le tu fais quelque chose, ou tu ne le fais pas, ou tu ne le fais pas comme il faut, ça tue le couple. Ça tue le couple parental et ça tue le couple amoureux. Donc, en effet, c'est bien d'éviter, plutôt revenir au jeu. Moi, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Moi, je ne me sens pas bien quand tu fais ci ou ça. Voilà. Et puis, alors, on est le 1er mai. Alors, forcément, il peut y avoir des petites attentions aussi, des petites fleurs, des petits mots. Tout ça, ça soutient la maman parce que la maman, eh ben, elle est dans un état de vulnérabilité juste à l'arrivée de son bébé. Elle est encore très ouverte, en fait. Et donc, il faut la contenir.
Toute cette communication, bien entendu, qu'on va avoir avec son partenaire ou sa partenaire, elle est, bien sûr, communiquée au bébé. Il faut le dire que tout ça va engendrer, alors, stress en absence de communication et peut-être plaisir avec s'il y a cette communication dans la, on va dire, une forme de bienveillance. Et surtout, bienveillance, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais ces petites attentions vont donner du bonheur au bébé.
Oui, c'est-à-dire qu'on va passer d'un mode de devoir, je dois m'occuper du bébé, et alors les parents, ce sont des hyper spécialistes de l'hygiène, de l'accompagnement émotionnel, de tas de choses, mais ça permet en fait de passer du devoir au plaisir. C'est-à-dire que cet autre mode de communication, elle remet du plaisir et de la joie, en fait, dans le quotidien.
Est-ce que tout cela, alors pour revenir, parce qu'on est beaucoup en ce moment dans quelque chose de, autour de la santé, le sanitaire, le scientifique, on entend beaucoup dans les médias des scientifiques et c'est à juste titre. Est-ce que justement il y a des études qui ont été menées sur les nourrissons et sur leur bonheur ou en tout cas leur bien-être et du coup ces interactions entre adultes sur leur bien-être, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a de la littérature là-dessus et des choses concrètes de scientifiques, on va dire?
Alors, je vais juste faire référence à quelque chose que j'ai lu il n'y a vraiment pas très longtemps, qui était une étude qui ne serait pas qualifiée aujourd'hui de scientifique parce qu'elle date du Moyen Âge. Mais en fait, il y a un roi qui, à l'époque, alors je ne sais plus lequel c'était, hein, je ne saurais plus vous dire,
On le cherchera
mais
pour la semaine
qui vous...
prochaine.
C'est ça, je chercherai le détail, mais il voulait démontrer, en fait, que la première langue que les enfants parlaient était le latin. Pour lui, c'était important de démontrer ça. Et donc, il a pris des enfants, alors aujourd'hui c'est inconcevable hein, comme expérience, mais il a pris des enfants, il les a donnés à des nourrices avec comme consigne de bah, les nourrir, les changer, assurer leur hygiène, mais ne pas leur parler pour voir quels étaient leurs premiers mots. Mais en fait, tous ces enfants sont morts.
Alors je...
Et oui.
Non, pardon, merci Anne-Christine. On termine peut-être ce que vous allez dire là-dessus, pardon.
Oui, ça montre bien en fait que cette communication, elle est vraiment importante avec nos enfants. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent de ça.
Eh bien, merci. C'est
Ouh.
la belle fin. On est remonté très très loin dans l'histoire. Je crois que des travaux de
Oui.
Boris Cyrulnik vont dans le même sens, me semble-t-il,
Je
sur l'Europe
pense,
de
oui.
l'Est et sur des
Oui.
orphelinats, il me semble,
Oui, tout à fait, oui.
d'enfants laissés
Oui, c'est vrai.
et sans, en tout cas sans proximité. Il y a des mots, mais là, il n'y avait carrément pas de mots, ce qui est quand même
Oui.
impressionnant, effectivement, en termes d'études,
Oui.
qui ne pourraient pas avoir lieu aujourd'hui, on se rassure.
Non,
Merci
heureusement.
beaucoup, Anne-Christine. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Je rappelle
Merci.
que vous êtes accompagnante à la naissance. On peut retrouver peut-être votre blog sur le net.
Oui, chemindenaissance.com.
Allez-y, il y a
Voilà.
plein de beaux
Merci
conseils
beaucoup.
pour les parents. Merci et très bonne
Merci
journée
beaucoup.
à vous. Au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Je vous propose de retrouver tout de suite dans Amour, échange et confinement Éric Barral avec sa chronique méditation du vendredi. Et puis la place sera faite à Hugo pour sa nouvelle chronique économique qu'il va venir nous proposer tous les vendredis. On continuera avec Jeanne qui nous propose donc la chronique de Madame Biclou. Et puis on terminera comme tous les jours avec le son du pick-up, ses personnalités cultes, Raphaël et aux manettes cette semaine. Je vous souhaite une très bonne émission et je vous propose de vous retrouver en direct lundi prochain. Merci beaucoup, passez un bon week-end. À très bientôt. Salut, salut, prenez soin de vous.
Bonjour à tous les confinati, vous tous qui avez comme moi besoin de vous libérer de vos prisons mentales, légère allusion à notre obligation à rester la majeure partie de la journée dans notre lieu de résidence. Ce septième épisode du feuilleton pas à pas d'un méditant de pleine conscience, débutant bien sûr, me permet une fois de plus de parler de ma pratique de la méditation avec comme guide le livre « Je médite jour après jour » du psychothérapeute Christophe André. La semaine dernière, un souvenir référence me permettait de retrouver un soupçon de sérénité et de lucidité afin de remettre de l'ordre dans le fouillis de mes pensées. Aujourd'hui, votre serviteur va vous faire partager son expérience de lundi dernier, une expérience liée à la douleur, mais ne noircissons pas le paysage. Il est midi 28. J'écoute amour, échange et confinement, mené de haute main par Bastien, quand vient le moment de la diffusion de Voix d'écrivain, une chronique que j'enregistre à casa, à la maison, et que j'envoie sous forme de fichier en général 3 ou 4 jours avant la diffusion du lundi. Mes quelques années d'expérience me permettent en principe d'écouter sans trop d'état d'âme mes chroniques, même si je ne suis jamais complètement satisfait de ma prestation. Seulement, lundi dernier, je me rends compte en écoutant l'émission que je n'ai pas envoyé le bon fichier, que celui qui est diffusé à l'antenne comporte encore toutes mes hésitations, erreurs et autres bafouillements. Le fichier corrigé qui vous était destiné est lamentablement resté dans mon disque dur. En une fraction de seconde, je me dis 1. Que ce n'est pas sérieux, 2. Que j'ai mal travaillé, 3. Que ce n'est pas respectueux vis-à-vis de l'auditeur, 4. Que ce n'est pas normal après tant d'années de radio. Je suis en même temps le coupable, l'accusateur et le tribunal pour en rajouter une couche. En gros, je traverse une tempête qui me fait souffrir, une douleur à peine estompée par les propos consolateurs et dédramatisants de Bastien, que bien sûr je me suis empressé de joindre pour m'excuser de ces horreurs diffusées sur notre antenne chérie. Tout ça pour dire que pendant quelques instants, j'ai été totalement envahi par cette souffrance démesurée par rapport à l'acte qu'il a généré. Celle-ci a complètement monopolisé ma conscience. La douleur a pris toute la place et je n'ai pensé qu'à elle. Sauf que ma pratique de la pleine conscience a repris la main et m'a permis d'élargir l'espace de ma conscience pour que la douleur ne l'occupe pas entièrement. Concrètement, dans les minutes qui suivirent mon appel téléphonique à Bastien, j'ai admis que la douleur était là, mais j'ai laissé mon esprit accueillir d'autres invités que mes ruminations contre moi-même. Je pris alors conscience de ma respiration, des sons qui m'entourent, pris conscience de mon corps et des autres pensées qui vont et qui viennent. La douleur provoquée par cette erreur était encore présente, mais moins prépondérante. Et la représentation que j'en avais était désormais plus conforme à la réalité, plus pondérée. Justement, dans la leçon 15, page 185, Christophe André explique que l'une des grandes sources de nos souffrances est le manque de conscience. Ne pas réaliser que nous déformons la réalité et adhérer ensuite de toutes nos forces à cette réalité déformée. Les psychothérapeutes parlent de distorsion et de rumination. Et ils savent qu'il faut, d'une part, prendre conscience rapidement que notre esprit se fait piéger. D'autre part, se désengager de ces pièges. Parfois, on a pourtant beau savoir que l'on se fait du mal, on ne peut se détacher de nos fixations. Le message de la pleine conscience est simple. Si c'est trop difficile, alors je renonce à expulser les pensées ou sensations douloureuses qui m'envahissent par la volonté et j'élargis plutôt le champ de la conscience à tout le reste de mon expérience de l'instant présent. Ne pas laisser tout l'espace mental à mes souffrances et les diluer dans le plus vaste contenant possible. Ma conscience élargit à l'infini. Ainsi se termine le 7e opus de cette modeste chronique consacrée à la méditation de pleine conscience. Un instant de radio écrit à l'aide du livre de Christophe André, Je médite jour après jour. Je vous retrouve vendredi prochain et je vous propose d'écouter une chanson de Camille qui a un lien avec le thème du jour.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur, je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur, je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la vraie de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse? est-ce le beurre ou l'argent du beurre pour que tu vives ou que tu meurs? Faut que tu grèves de bonheur ou tu changes de godasse pour que tu croules sous les fleurs. Change de couleur, je vais prendre ta douleur. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.
Contrairement à ce qui a été annoncé hier, vous excuserez votre serviteur, et dans un souci de coller à l'actualité, la chronique d'aujourd'hui va être consacrée au 1er mai, ou plus précisément à son histoire. On remonte tout de suite en 1890. 1890, les premières manifestations du 1er mai. On porte alors à la boutonnière un triangle rouge. Une insigne revendiquant alors la journée de travail de 8 heures. L'insigne est peu à peu remplacée par la fleur d'églantine, puis par le muguet en 1907, alors accolée d'un ruban rouge du fait de l'origine ouvrière du mouvement. L'utilisation du muguet reprend alors une coutume qui remonte à l'époque de Charles IX, roi de France de 1560 à 1574, petit-fils de François Ier de son état. Mais revenons-en au 23 avril 1919. Le Sénat, dont les pouvoirs législatifs sont alors bien plus importants sous la Troisième République, ratifie la journée de travail de 8 heures et décrète que le 1er mai 1919 sera chômé. Il faut avancer un peu dans le temps et arriver en 1941 avec le maréchal Pétain, qui instaure officiellement le 1er mai comme, je cite, « fête du travail et de la concorde sociale ». C'est alors dans un but de déposséder les travailleurs de leur victoire sociale et d'en faire une fête célébrant la devise d'alors « travail, famille, patrie ». On fête plus le travail que les travailleurs. Néanmoins, le jour devient chômé et payé. Plus de manifestations alors. Cette célébration disparaît évidemment à la Libération, s'ensuit alors de nombreux tricotages législatifs qui finissent par rétablir le 29 avril 1948 la fête du travail, journée fériée, chômée et payée. Toujours pas de manifestation à l'horizon. Il faut attendre le 1er mai 1968 que la CGT réorganise une grande manifestation dans les rues de Paris, ce qui ouvre alors la tradition qui perdure encore aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Biclou en direct de mon studio Maison. Aujourd'hui, je vous propose une petite sélection de podcasts pour occuper vos oreilles pendant le confinement et vous changer les idées l'espace de quelques instants. Il y a quelques années, si on m'avait dit qu'on pouvait devenir accro à un format audio, je serais sans doute restée sceptique. Pour une raison que j'ignore, j'avais bien intégré l'addiction aux films, séries et livres, mais à l'audio, cela me semblait improbable. Pourtant, en quelques années, les séries, fictions et documentaires radiophoniques ont fait irruption dans notre quotidien. Et certains d'entre nous, dont moi, ne pourraient plus s'en passer. Je crois que pour moi, tout a commencé avec les documentaires du mardi proposés dans la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin. De fil en aiguille, j'ai découvert Les Pieds sur Terre, puis LSD et enfin Les Feuilletons, proposés quotidiennement sur France Culture. Toutes ces pépites bercent mes nuits d'insomnie, ou les provoque à voir. Difficile donc de faire une sélection tant les propositions sont nombreuses. Parfois, je me sens même un peu submergée par tout cela et frustrée de me rendre compte que jamais, même après plus d'un mois de confinement, je ne pourrai écouter toutes les choses qui me font envie. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi de vous parler de trois podcasts écoutés dernièrement et qui, je l'espère, pourront vous plaire. Le premier, disponible sur France Culture, est la fiction radiophonique 57 rue de Varennes. Créé par François Perrache, aussi auteur de l'excellent De guerre en fils sur Arte Radio, cette fiction nous fait découvrir les arcanes du monde politique français. Chaque saison, 5 au total, sont constituées de 5 épisodes de 30 minutes dans lesquels nous suivons les hommes et femmes politiques les plus haut placés. Président de la République, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, etc. On y découvre les mécanismes du pouvoir, les manigances et coups bas que se livrent ces personnages influents, et on espère avec optimisme et naïveté que la réalité est moins sombre. Il faut dire que pour sa série, François Perrache s'est non seulement beaucoup documenté, mais s'est également inspiré de plusieurs années d'expérience professionnelle au service de ministères et de l'Élysée. Autant dire qu'il est fort probable que cette fiction politique soit tristement réaliste. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la narration, le rythme et la réalisation en font une excellente série qui peut vite devenir addictive. Dans un genre tout à fait différent, La route du bled est un documentaire de Halima El-Khattabi en ligne sur Arte Radio. Constitué de 3 épisodes d'environ 15 minutes, cette courte série donne la parole à des familles qui évoquent le retour pendant les vacances d'été dans le pays des origines, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. On y découvre les différentes étapes de ces longs road trips, la préparation de la voiture, la traversée de la France puis de l'Espagne, le ferry. Tout cela mêlé à divers sentiments, la joie du départ, l'excitation, la lassitude de la route et de la chaleur insupportable. Au-delà des souvenirs drôles et touchants, parfois émouvants, racontés par les membres de ces différentes familles, j'ai trouvé très intéressant de découvrir ce rituel du retour au bled, partagé par de si nombreux Français et Françaises, et dont on ne parle finalement que rarement. C'est justement ce qu'Halima El-Khattabi a voulu pallier, et j'ai trouvé cela très réussi. Toujours sur Arte Radio, enfin, je vous recommande vivement la série « Dépêche » d'Olivier Minot, alias Livo. Et je crois que Bastien sera d'accord avec moi. Depuis 2 ans, ce dernier découpe chaque semaine les journaux avec son micro et nous offre 6 à 7 minutes de montage souvent complètement foutraque et subversif. Mêlant des micro-trottoirs, des extraits issus des médias télévisuels et presse, Olivier Minot parvient chaque semaine à montrer l'absurdité et l'ironie des événements qui rythment notre pays. Avec ses questions faussement naïves et ses montages provocateurs et révélateurs, Dépêche est un bon podcast pour rire de l'information, histoire de ne pas en pleurer. En espérant que cette petite sélection vous aura donné envie d'aller y jeter une oreille, je vous souhaite un bon 1er mai, même sans manif, et vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, confinez-vous bien.
Aujourd'hui, on vend les sous-vêtements et les petits pois au son du pick-up. La musique légère.
Tu auras presque peur la prochaine fois que tu touches un vis.
C'est en quelque sorte le tribunal. Leur verdict est implacable. C'est pour ça que, finalement, tu n'auras chez toi que des disques de grande qualité et qui méritent tout de même que tu en prennes le plus grand soin.
On va finir le son du pick-up de cette semaine avec le titre qui clôture le disque des Personality Cult, 540. En moyenne, les titres de ce disque font dans les 2 minutes. Et là, juste pour finir la phase B, un titre de 5 minutes. Comme si les Personality Cult ne voulaient pas nous quitter. Ils veulent encore un peu nous accompagner dans cette déferlante punk et nous laissent redescendre en douceur, savourer les 24 minutes que l'on vient de passer avec eux. Merci les gars.